l'hebdo des régions avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers.
Bonjour et bienvenue sur Radio Immo. Nous sommes en direct à 11h pour ce nouvel épisode de l'Hebdo des Régions. Notre émission, en partenariat bien sûr avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, se tient de manière, on va dire, presque mensuelle. On ne s'était pas revu depuis la fin juin. On se retrouve là pour cette rentrée et on a le plaisir d'aller dans la région Grand Est. Alors, au programme, on aura le mot du président de région, quand même, et la balade avec nos invités sur les problématiques régionales rencontrées par les professionnels du secteur. Donc, comme je l'ai dit, région Grand Est, on part au frais. Et pour partager ce plateau à mes côtés, j'accueille Olivier Kinder, bonjour, président de la FPI Région Grand Est et DG de la Société Boulle. Comment allez-vous, Olivier ?
Bah, très bien, bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Eh ben, on est ravis de vous accueillir. On vous reprend dans quelques secondes après nos salutations d'usage pour le petit mot du président, c'est quand même important. J'accueille également Didier Godefroy. Bonjour Didier.
Bonjour Charlotte et bonjour à tous.
Eh ben, on est ravis également de vous avoir à nos côtés, président de la société Oplo à Metz, et vous êtes également vice-président FPI Grand Est Lorraine.
Oui.
Et enfin, pour terminer ce trio, j'accueille Cédric Simonin. Bonjour Cédric.
Bonjour Charlotte, bonjour.
Alors vous êtes PDG du groupe Vivalis, Trianon Résidence et Carré de l'Habitat.
C'est ça.
Tout à fait. Alors, on va parler, vous vous en doutez bien, de promotion construction. On va démarrer tout de suite dans le vif de notre sujet avec ce petit mot du président juste après ce jingle.
L'hebdo des régions avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Retour sur le plateau de l'hebdo des régions. Olivier, je vous laisse la parole pour nous présenter un peu de manière toujours très pédagogique la FPI régionale, votre fonction, votre région, nous parler un peu des spécificités du secteur.
Donc, bonjour à tous. Alors oui, je suis ravi d'être avec vous. Cette région que je représente en tant que président est très vaste. Elle va de Reims en passant par Nancy, Metz jusqu'à Strasbourg et Mulhouse. Et nous sommes une cinquantaine d'adhérents promoteurs, 52 pour être précis, depuis quelques temps. C'est donc une belle proportion. Ça nous permet de représenter 80% du marché de la grande région, ce qui est à peu près équivalent à ce que représente la FPI au niveau national, d'ailleurs. Et donc, on est organisé de telle sorte que je puisse avoir des relais dans la région, l'ex-région champenoise et en Lorraine. Didier Godefroy qui est avec nous est donc le vice-président Lorraine et Christophe Durand, vice-président Champagne.
Alors comment ça se passe? Alors je pose toujours la question, hein, c'est vrai que c'est d'actualité, en même temps c'est une actualité qui commence à durer. Post-Covid, si tant est qu'on puisse parler de post-Covid, comment vous avez vécu cette période un peu trouble?
Bien évidemment, ça a été très difficile, surtout le premier confinement, mais je dois reconnaître que l'ensemble de la profession a très bien réagi par la suite. On s'est adapté finalement, que ce soit pour des questions de télétravail et puis également sur les chantiers, de sorte que difficile de rattraper le retard parce qu'il avait été quand même considérable, mais en tout cas, on a pu reprendre notre activité assez rapidement ensuite, ce qui fait que maintenant, on va dire qu'on c'est redevenu à la normale. La clientèle est toujours au rendez-vous, même d'ailleurs, on s'attendait à une chute des réservations, et c'est tout l'inverse qui se produit, donc on est plutôt satisfait à l'heure actuelle de la tenue du marché de la grande région.
Mais c'est vrai qu'on est tous un peu surpris parce qu'en interrogeant, enfin moi pour ma part, pas mal de professionnels de l'immobilier, mais pas que dans le secteur de la promotion construction, il y a un peu cet effet, et vous allez me dire ce que vous en pensez les uns et les autres, ça repart, on est presque étonné que ça reparte aussi facilement, comme si rien ne s'était passé. Alors est-ce que vous partagez cette opinion ?
En tout cas, moi, oui. Le constat est vraiment que c'est comme si on n'avait pas eu cet épisode de Covid. Maintenant, il a quand même eu des conséquences. Et cette adaptation de la façon de travailler, on la vit maintenant. Et pour certains, elle est devenue la routine. Et pour d'autres, ils sont retournés, on va dire, aux anciennes façons de faire. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. On est dans une période où on peut dire que de pleine activité, de pleine croissance pour ce qui nous concerne. Reste une ombre au tableau qui est finalement le renouvellement de notre matière première, le renouvellement
de votre stock,
de notre activité au travers de nouveaux projets. Mmh. Et là, par contre, c'est difficile.
Bah là, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans l'émission. Didier Godefroy.
Oui.
Oui, est-ce que vous partagez le sentiment de votre président de région ?
Tout à fait. Nous, depuis le début de l'année, on appelle ça le sillon lorrain qui démarre de Nancy et qui va jusqu'à la frontière luxembourgeoise, on a une dynamique forte. Moi, je mettrais un élément en avant. Je pense que nos entreprises ont pris le tournant aussi l'année passée dans les temps d'attente, on va dire, du Covid. Il y a eu une forte mobilisation des équipes autour de la digitalisation, le travail à distance avec la visio, et ça a permis également d'avoir une nouvelle relation avec les clients qui n'est pas toujours physique aujourd'hui et qui permet de montrer nos programmes au travers des outils, et qui fait qu'aujourd'hui nos entreprises ont pris les devants et sont toujours tout aussi performantes. Voilà. Moi, comme le disait Olivier, il y a un point qui est un peu plus compliqué à l'heure actuelle, c'est sur la partie chantier, par un manque de... On a comment dire, les entreprises qui ne disposent pas, même chez nous, de suffisamment de personnes qualifiées. On a beaucoup de mal à recruter, et d'autant plus dans nos régions où on est à proximité de frontières comme le pays luxembourgeois, qui est très, très dynamique. Voilà. On en reparlera peut-être
oui,
un peu plus
où,
tard.
Oui, où les salaires sont quand même sensiblement peut-être plus élevés que ce que vous pouvez proposer.
Oui, mais je pense que c'est aujourd'hui, les gens, peut-être qu'il y a un état d'esprit aussi qui va évoluer, parce que les gens ont, comment dire, la qualité de vie. Parce que, bien entendu, Luxembourg, il y a des niveaux de vie supérieurs. Mais vous avez également des contraintes dans le déplacement tous les jours. C'est aujourd'hui, ça prend facilement une heure pour se déplacer sur le Luxembourg, une heure le matin, une heure le soir, plus un dispositif à 40 heures. Donc ça, c'est aussi des contraintes que les gens regardent de plus en plus, avec une qualité de vie de proximité qui peut nous permettre de réattirer des cadres, ou des salariés.
Eh bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et puis, c'est vrai que les problèmes de recrutement, on a déjà eu l'occasion de l'aborder dans cette émission. C'est un problème qui n'est pas isolé pour votre région, puisque, effectivement, ça semble être une problématique quand même nationale. On avait dit d'ailleurs qu'on ferait une émission sur ce sujet. C'est quelque chose qu'on essaiera d'envisager, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Cédric Simonin, en tant que, pour le coup, PDG, d'un groupe quand même de taille importante, parce que Trianon Résidence, c'est quand même pas un petit groupe. Comment vous avez résisté? Comment vous avez vécu ce moment?
Ouais, le groupe Vialis dans son ensemble. Hein. J'ai presque dire la période Covid, on l'a vécu. Si je prends trois mots, les maîtres mots, je dirais adaptation, coopération et communication. L'adaptation, parce qu'il a fallu être très agile très rapidement, c'est ce qui a été dit par Olivier et Didier, la digitalisation, le fait de mettre les équipes dans un environnement et télétravail le plus performant possible, le plus rapidement possible, donc l'adaptation. Là, on a des structurations d'entreprises qui sont plutôt saines, donc avec des gens qui ont une vraie compétence au sein de chacune des entreprises de la FPI, donc je pense que chacun a réussi à s'adapter assez rapidement. Le deuxième mot, maître mot, c'est la coopération, parce que la coopération, elle est aussi vis-à-vis de nos partenaires et nos partenaires sous-traitants, où là, on a réussi à mettre en place un système de travail avec, on ne savait pas trop comment aller s'organiser les chantiers en période Covid. On avait une communication qui était assez erratique, je vais presque dire au jour le jour. Donc, il fallait vraiment être très proche en coopération avec nos sous-traitants pour pouvoir s'adapter et faire avancer nos chantiers. Tant bien que mal. Et puis, la communication, parce qu'il a fallu aussi donner du sens, expliquer les choses à nos clients. C'était pas simple de leur faire comprendre que finalement, voilà, les délais allaient glisser, qu'on n'allait pas les maîtriser, avec les conséquences que ça pouvait avoir pour eux au niveau personnel, hein, ceux qui devaient déménager, ceux qui devaient être livrés dans les jours qui venaient, qui ne pouvaient plus être livrés, mais qui étaient à la rue parce qu'ils avaient donné, congé. Donc, c'était une période qui a été assez enrichissante, je trouve, avec du recul plutôt positif, parce qu'on a beaucoup appris sur nous-mêmes et ça a permis de renforcer justement ce mode de travail en interne, je pense, et ce qui est vrai pour nous, c'est vrai, je pense, au niveau de toutes les entreprises de la FPI.
Eh ben, écoutez, oui, on vous remercie pour cet éclairage. Je pense que c'est le moment, par rapport à ce qui s'est dit, d'aborder la question du marché, puisque tout à l'heure, Olivier nous expliquait que finalement, les clients sont toujours au rendez-vous. Donc, je vous propose qu'on se fasse un petit point marché. Olivier, comment se comporte le marché actuellement sur votre secteur ?
Alors, bon, je vais peut-être laisser mes amis s'exprimer sur d'autres secteurs. Moi, je vais raisonner le secteur strasbourgeois ou barinois, qui se comporte plutôt bien. Alors, encore une fois, la clientèle est au rendez-vous. Malheureusement, on fait face, on va dire, à une sorte de pénurie d'offres qui a eu pour conséquence l'augmentation des prix de vente de nos logements. Et cette pénurie, c'est clair qu'on ne voit pas trop le bout du tunnel. Souvent, vous savez, à la veille des élections, les maires lèvent le pied sur les autorisations d'urbanisme. Ça se fait depuis tellement d'années que c'était une habitude pour nous. Et puis en général, après les élections, ça repart de plus belle. Vous voyez, les élections, c'était déjà il y a plus d'un an, presque un an et demi.
Et c'est pas reparti.
C'est pas vraiment reparti, quoi. Donc l'inquiétude est vraiment là.
Vous l'expliquez par la pandémie ?
Non, pas vraiment. C'est que maintenant, vous savez, on a eu une belle période où on avait un appui considérable des premiers élus, des maires qui étaient plutôt bâtisseurs.
Ouais. Maintenant, les fameux maires bâtisseurs.
Voilà, les fameux maires bâtisseurs. Mais maintenant, j'aurais plutôt tendance à dire qu'ils sont devenus minoritaires. Et donc, à charge pour nous d'expliquer, de convaincre que l'acte de bâtir est nécessaire, utile et noble, et qu'il faut absolument continuer à construire. À ce que je sache, la population française continue de croître. Et malheureusement, les divorces sont toujours d'actualité. Donc, il faut construire des logements, sinon où vont loger nos citoyens ?
Bien sûr. Alors justement, Didier a peut-être un avis sur la question. Comment agir auprès des maires, plus généralement, en faveur de la relance de la construction de logements neufs ?
Alors, je vais peut-être refaire un point aussi sur la Lorraine.
Oui, bien sûr. On vous écoute sur la problématique marché.
Voilà. Mais très rapidement. Dans la même logique, donc nous, on a un outil qui est le CECIM au niveau de la fédération qui nous donne un état très précis puisqu'on
c'est un observatoire, on précise pour nos auditeurs,
qui prend également les chiffres de la concurrence sur l'ensemble du territoire par des systèmes d'enquête. Voilà, donc on a un très bel outil. De cela, on a une précision de nos évolutions. Il faut savoir que, alors là, je parle de Nancy, Metz et Thionville avec la région frontalière. Depuis le début de l'année, on est à 1000 logements réservés. Donc, on est en très forte. On est revenu à ce qui se passait en 2018-2019. La grande différence par rapport à l'année passée, c'est que les investisseurs sont revenus, sont de retour de façon très forte, une très forte demande à ce niveau-là. Nous, on a une particularité, c'est qu'on avait un stock assez important sur les villes de Nancy-Mestionville. Ce stock s'est amoindri. On est revenu sur des bases nationales, mais on commence à connaître une augmentation des prix, plus 3% là depuis le début de l'année. Donc, il faudra être attentif avec la mise en place de la RE 2020, qui risque également d'augmenter un peu les tarifs. Donc ça, c'est le marché.
Donc vous n'êtes pas encore en pénurie de stock, vous, sur votre secteur, mais ça commence à s'envoler.
Voilà. Mais comme l'a bien dit Olivier tout à l'heure, il y a, et vous m'avez posé la question par rapport aux nouvelles municipalités, il y a un travail de collaboration qui est fait par la Fédération des promoteurs immobiliers, puisqu'on participe quand il y a des modifications de PLUI, on est acteur, on essaye de donner des informations, de travailler avec les élus pour faire évoluer. Donc on a sur le marché, je vais prendre dans le détail, sur le marché nancéen, il y a tout un travail de refonte avec des nouveaux élus qui réfléchissent à modifier assez fortement à re-répartir l'acte de bâtir. Donc il y a un travail de fond qui est à faire et il faut être très attentif parce qu'à l'heure actuelle, le foncier manque également pour le logement social. Et donc il y a vraiment des enjeux à moyen terme qu'il faut travailler. Sur le marché de l'agglomération, de l'Eurométropole de Metz, le marché est dynamique. On a un président et maire qui est un homme bâtisseur depuis toujours. Donc là, ça se passe bien avec des modifications également dans les relations et la collaboration avec avec nous, acteurs, pour aller vers de la qualité. Et sur le secteur thionvillois, là, on est plus sur un territoire beaucoup plus large et frontalier, où également on est sur des maires bâtisseurs avec une très forte demande également des frontaliers. Et aujourd'hui, qui est un marché très, 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 très puissant et très porteur. Voilà ce que je peux vous donner comme premiers éléments.
Eh bien, justement, on va interroger quand même Cédric aussi sur cette question marché. Quel est son retour? Qu'est-ce qu'il en pense?
Je rejoins l'analyse d'Olivier et Didier. Quels que soient les secteurs, on retrouve les mêmes problématiques. Les élections municipales et la vague verte a fait en sorte qu'il y ait une réticence à bâtir. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je suis pas là pour expliquer ou justifier certaines choses, mais ça a des conséquences. Donc là, on est focalisé sur la région Grand Est, donc je parlerai pas des autres régions, mais cette problématique, on la retrouve, celle que Olivier a définie, on la retrouve
à l'échelon national. Oui.
La question qui doit se poser, c'est que finalement, l'élu qui a un temps qui est un temps différent d'une autre, hein, un élu, il a un temps sur 5 ou 6 ans. C'est le temps d'un mandat, alors peut-être qu'il repart après pour un deuxième mandat. C'est antinomique avec notre temps à nous, qui est un temps long. Une opération, je vais presque dire, quand tout se passe bien, c'est 2 ans et demi, 3 ans, mais vraiment quand tout se passe très bien. Donc imaginez qu'on a une dichotomie entre le temps de la construction et le temps du mandat. Donc les conséquences qui sont mises en œuvre par un élu, parfois il ne les voit pas en œuvre tout de suite et il préfère justement éviter de faire des erreurs qui pourraient éventuellement obérer
lui coûter son mandat suivant.
Alors quand je dis ça, je sais que je me fais pas des copains, mais finalement, il faut être cohérent par rapport à un discours. Finalement, qu'est-ce que ça engendre? C'est quoi les conséquences du fait de limiter ces autorisations de construire? Il y a une conséquence essentiellement sur les prix, et ça a d'autres conséquences. Et si vous permettez, je peux les dérouler assez rapidement.
Allez-y, je vous en prie.
Si vous ajoutez encore par rapport à ces permis non délivrés, donc problématique de stock, donc automatiquement, on a mécaniquement les prix qui augmentent. Ajoutez ça à l'augmentation des prix des matériaux. Ajoutez ça à la réglementation qui va évoluer, qui va encore renchérir le coût de la construction.
Oui, parce que c'est pas la seule cause de l'envolée des prix, on est bien d'accord. Hein. Ça fait partie des facteurs, mais ça n'est pas le seul.
Disons que c'est un facteur aggravant, parce qu'on n'était pas de fluidité dans un marché. Ajouter à ça un foncier plus rare, la question c'est quid du logement pour le plus grand nombre? Parce que ça, c'est ce qu'on entend commun dans les discours. Et le logement social ne résoudra pas tous les problèmes. Donc, est-ce que c'est un vœu pieux des politiques? C'est ça la question. Donc, quelles sont les conséquences? Moi, je vois des conséquences déjà à court terme. Un, des recettes fiscales qui ne rentrent pas. Et donc, avec les lois de décentralisation, je pense que certains n'ont pas forcément pris la bonne calculatrice. Deux, il y a une tension sur l'offre et la demande. Ça veut dire que les centres-bourgs, les gens vont aller chercher plus loin, ça crée de l'éloignement. Quelles sont les conséquences de l'éloignement? C'est des mouvements pendulaires, c'est des développements des infrastructures des communes de deuxième ou troisième couronne. Ça veut dire que pour elles vont avoir un problème de financement ou d'école, d'infrastructures, école, les mobilités, etc., etc. Parce que c'est bien de dire il faut prendre le train et les bus, mais faut-il encore qu'on puisse les financer? Et donc, je ne parle même pas d'un impact carbone de l'ensemble de ces dispositifs. Et qu'est-ce que ça a comme impact à long terme? L'augmentation des prix de logement dans sa globalité. Et ça fait longtemps que je dis que, pour moi, à échéance 10 ans, le logement sera un produit de luxe, Est-ce que c'est ce que les politiques veulent? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra qu'ils s'expriment sur la question.
Oh, je ne crois pas, mais en tout cas...
Bah ouais, mais il faut qu'ils soient responsables. Être responsable, c'est être comptable. Donc au bout d'un moment, il faut rendre des comptes.
Bien sûr, et là, on rentre dans une année présidentielle en plus. Donc il va y avoir forcément, le logement, c'est quand même un gros poste. Il y aura forcément des propositions, là, hein, très rapidement, dès le début de l'année 2022, sur une nouvelle politique de logement. À voir si la mandature de notre cher président de la République se reconduit ou pas. Voilà. C'est vrai qu'on en saura plus.
De toute façon, ils
ne
vont pas avoir trop de choix, parce que les conséquences, ils vont les voir. Sur le plus long terme, quels sont les impacts qu'on peut imaginer? Ben moi, je pense que ça va mettre les gens en insécurité. Parce que être locataire à vie, ce n'est pas forcément être en sécurité. Être propriétaire très tardivement, ce n'est pas forcément être en sécurité, de finir de rembourser son prêt à 65 ans. C'est aussi un complément de retraite. Si vous n'avez pas ça, c'est une paupérisation des seniors. Et puis, quid de la transmission aux générations futures qui, elles, auront de plus en plus de mal de se loger. Mmh. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Et ces questions, elles se posent dès aujourd'hui. Parce que ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, ça aura un impact dans quelques années. Parce que nous, on a un temps long.
Bien sûr. Justement, j'en profite pour vous poser la question aux uns et aux autres. J'imagine que vous attendez beaucoup de la commission Rebsamen. Vous savez, cette commission qui s'est mise en place en juin. Je crois qu'ils sont, si je ne dis pas de bêtises, 36 personnes autour de cette table. Pour trouver des solutions, lever les freins à la construction qui existent aujourd'hui et qui ont été repérés par l'ensemble des professionnels du secteur. Elle rendra normalement cette commission ses conclusions, enfin ses recommandations à fin septembre. Donc est-ce que pour vous, il y a une réelle attente sur cette commission Rebsamen? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous dites que bon, ça va peut-être être un rapport de plus, un coup d'épée dans l'eau? Olivier?
Oui, bien sûr qu'on y croit fortement, puisque de toute façon, là, on a besoin de trouver des solutions pour relancer la dynamique et pouvoir proposer de nouveaux projets, de nouveaux logements à nos concitoyens. Donc, c'est clair qu'on y croit. Il y a un gros travail qui est fait, effectivement. La FPI est très active dans cette commission. Nous serons... force de proposition en nombre, en espérant bien évidemment que bon nombre d'entre elles seront retenues parce qu'elles auront du sens et nous permettront de débloquer cette situation. C'est le vœu en tout cas que nous avons et l'intime conviction qu'il faut faire bouger les choses très rapidement. Mmh. Nous avons beaucoup trop... de personnes qui pensent que finalement que le logement de qualité, c'est celui qu'on ne construit pas. Bien évidemment, je m'insurge contre cela. Je le répète, le logement est nécessaire, utile et noble et on en a besoin en France, contrairement à peut-être d'autres pays, mais en tout cas chez nous, il faut continuer de construire. Bien sûr, il faut choisir les territoires, on ne peut pas construire n'importe où. Mais l'acte de bâtir est vraiment important. On compte sur cette commission Rebsamen pour donner ce petit coup de fouet là pour relancer toute la machine.
Alors c'est vrai qu'on a l'impression de faire face un peu à des injonctions contradictoires puisque d'un côté on a une commission Rebsamen qui s'est mise en place pour lever les freins donc qui empêche l'acte de construire et on a eu aussi récemment d'autres injonctions comme je pense à la ZAN, la circulaire zéro artificialisation nette. J'entendais, je rebondis aussi sur ce que disait Cédric, la vague verte des maires, est-ce que du coup les écologistes sont responsables de ça? Est-ce que, quel est votre avis sur la question, Olivier?
Mais, écoutez, le problème actuel du logement, on ne peut pas l'affecter à une couleur politique. Quelle que soit la couleur politique, nous avons les mêmes problèmes. Donc, je pourrais vous dire que finalement, ce n'est pas cette vague verte qui a déclenché les choses. Maintenant, elle les accentue un petit peu. Voilà, ça oui, c'est clair, on le voit bien. Mais après, il faut regarder aussi ce qui se passe au niveau gouvernemental. On se retrouve avec nous, un secrétaire d'État au logement, qui est sous tutelle d'une ministre qui prône l'écologie. et derrière le logement, notre secrétaire d'État qui veut absolument relancer la machine. Donc il y a un peu contradiction dans la manière de faire de l'État. Donc j'espère qu'à un moment, il pourra
trouver un équilibre dans la balance.
Visibilité là-dessus. Voilà, mais les contradictions sont là au quotidien.
Mmh. Oui, c'est vrai qu'on vante la sobriété foncière et d'un autre côté, on se dit, bah oui, mais il faut construire parce qu'il y a des gens à loger. Donc c'est vrai que ça peut sembler un peu antinomique. Après, il faut peut-être avoir en considération que ce qu'essaye de limiter la ZAD, notamment, c'est ce qu'on appelle le mitage territorial, à savoir les habitats épars au milieu des champs, tout en ayant conscience qu'il va falloir redensifier la ville. Mais en même temps, même ça, comme on l'a abordé en off, en amont, et je poserai la question du coup à Didier, à savoir ce qu'il en pense également, on veut construire plus haut, on sait qu'on a une nécessité de densité verticale, mais néanmoins, les gens ne sont pas forcément hyper ouverts à rajouter 2 ou 3 étages à leur immeuble.
Oui, je voulais finir aussi tout à l'heure, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les, comme le dit Olivier et Cédric, sur la complexité de construire aujourd'hui. Il y avait eu aussi toute une mission pour la simplification de la construction qui, malheureusement, toutes les normes et tout ça qui avait été mis en place, qui n'a pas abouti. Donc, il faut être attentif à ce que tous les comités qui sont mis en place, plus tout ça cumulé avec les élections qui arrivent, qu'on obtienne quand même un discours assez clair et qui puisse être transféré après sur des politiques dans les années à venir ou dans les 2-3 ans qui viennent, qui ait une certaine clarté. Je pense que pour notre métier, c'est essentiel.
Oui, vous avez peur que ça passe un peu à la trappe du fait que c'est en fin de mandat, là et...
C'est assez compliqué. Politiquement, je pense qu'on n'a pas de... Nous, on a un rôle au niveau de la fédération. Je pense qu'on peut être en collaboration avec les élus, être écouté, parce que je pense qu'on est... Je vais répondre à votre question. On est vertueux, nous, dans notre démarche, puisqu'on va sur la RE 2020. On produit des biens et des logements qui sont qualitatifs à l'heure actuelle, qui répondent à des normes environnementales qui sont très élevées, même par rapport à... qui se passe en Europe, et on ne regarde même pas la partie mondiale, on se cale déjà sur l'Europe, on est dans le pays dans lequel on a quasiment les bâtiments les plus, tant au niveau carbone qu'au niveau production d'énergie non fossile, on va arriver dans un niveau qui est très très élevé. Et je pense que les élus doivent penser aussi que l'enjeu de toute cette partie carbone, c'est l'ancien. Et là, il faut qu'ils mettent l'accent et qu'ils nous laissent un peu de liberté pour travailler.
Ah bah alors justement...
Justement, pour répondre à votre question sur la densification, par ce biais-là, je pense qu'on peut, travailler avec les élus pour trouver de nouveaux modes de vie pour la densification de la ville, pour répondre aussi aux attentes qui ont beaucoup changé de la part des clients qui veulent aujourd'hui tous des terrasses, des espaces extérieurs. Donc, il faut trouver les nouveaux modes pour pouvoir faire ça en plein milieu urbain, parce que ce n'est pas toujours évident dans les mécanismes, dans les outils d'urbanisme qu'on nous impose, mais les règles qu'on nous présente ne permettent pas toujours de réaliser des ouvrages comme ceux qui sont attendus par les clients.
Merci pour cette réponse. C'est, vous me faites rebondir encore. On va jamais terminer cette émission. Je rebondis une dernière fois. C'est important parce que, pareil, j'avais eu l'occasion d'échanger avec Olivier en amont sur cette question et vous me l'avez lancée. J'assistais à une conférence hier qui disait qu'en 2050, le village de la ville aurait à 80% le même visage qu'aujourd'hui. Donc en gros, on est dans une problématique où il va falloir reconstruire la ville sur la ville, comme on l'entend assez fréquemment. Et j'aimerais avoir votre avis sur la restructuration, la réhabilitation, ces deux termes qui sont un peu... Qui ne veulent pas dire la même chose. Est-ce que les promoteurs vont avoir, à votre avis, à s'adapter à cela? C'est-à-dire peut-être moins de construction neuve, mais peut-être plus de restructuration, si je ne dis pas de bêtises, Olivier. Mais je voudrais juste avoir l'avis de Cédric par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez en tant que promoteur?
Pas directement de cette manière-là. C'est difficile de je suis pas médium, donc c'est difficile de faire une projection par rapport à ça. La question qui se pose, elle fait écho à la question que vous avez posée juste avant. C'est-à-dire que vous pouvez toujours faire de la réhabilitation, mais si vous ne densifiez pas plus, ou dans le cadre de cette réhabilitation, vous revenez sur cette même problématique. Et la réhabilitation, il ne faut pas l'imaginer uniquement dans les grandes villes.
Avec non, mais je pense notamment à la réversibilité des immeubles. Vous savez, par exemple, de transformer, je ne sais pas, un ancien immeuble de bureau qui est devenu complètement obsolète en logement. Par exemple. Hein.
La question, elle peut se poser et on verra si par rapport aux nouvelles réglementations, il n'y a pas même lieu où ce soit beaucoup plus intéressant de carrément détruire pour reconstruire. Donc la question, c'est de savoir si on imagine des bâtiments qui ont une durée de vie donnée et qui sont destinés à être démolis pour être reconstruits. C'est aussi un changement de paradigme que l'on peut imaginer. L'avantage que l'on a dans le logement, c'est que ça n'a pas bougé pendant de très nombreuses années, 50 ou 60 ans. Et là, on vit une petite révolution depuis une dizaine d'années. Voilà, je trouve que l'on vit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a une donne il y a une nouvelle donne là qui est en train de se mettre en œuvre. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres possibilités. Il faut aussi qu'au niveau des politiques, ils aient une cohérence au niveau du discours. Et cette cohérence, elle doit être associée à un courage politique. La difficulté, vous l'avez dit, par rapport à la commission Rebsamen, c'est si seulement on pouvait avoir la simplification au niveau administratif déjà, ce serait déjà pas mal, parce que finalement on a des PLU, PLUi qui sont tellement compliqués à comprendre, et puis quand on essaie de les respecter, on nous enlève toujours. Enfin, les règles sont écrites, on essaie de les respecter, on nous demande de plus les respecter, donc de ne pas les respecter en faisant toujours moins. Donc il faut qu'il y ait une cohérence par rapport à un discours politique.
Oui, et puis c'est vrai que ce millefeuille législatif, administratif, c'est vrai qu'il ne concerne pas que votre secteur d'activité. Je pense que le choc de simplification, à un moment, va être nécessaire, parce que bon, c'est effectivement beaucoup de contraintes, et au final, on n'avance pas aussi rapidement que ce qu'on souhaiterait. Dernière question, du coup, parce que vous me lancez encore, mais... Le recours des tiers qui fait partie justement de ce millefeuille législatif, c'est un vrai problème aujourd'hui, non, Olivier ?
Alors, oui et non. Enfin, le recours des tiers, on l'a toujours connu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une recrudescence d'associations ou de voisins toujours mécontents de ce qui se passe à côté d'eux. Mais bon, en France, on est les
rois pour ça, hein. On est mécontents.
Voilà, on veut tous utiliser une autoroute, mais il ne faut pas qu'elle passe à côté de chez soi. On veut tous prendre le train, mais il ne faut surtout pas que les voies de chemin de fer soient à côté de chez soi. Et on veut tous habiter dans un beau logement, mais il ne faut pas que ce logement soit en face, enfin, devant sa vue et qui vous empêche, à vous qui habitez à côté, d'avoir tout le confort souhaité. Donc, voilà, en France, c'est comme ça. C'est triste. Bon. Maintenant, on a plein de moyens pour faire accepter des choses. Il y a cette communication, il y a de la concertation. On peut y arriver.
Vous avez pu voir quand même que le temps, en fait, de blocage d'un chantier, avait augmenté ces derniers temps.
Alors, sur le recours des tiers, on a la chance, on a une loi, la loi Allure, qui nous a très, très largement aidé. C'est que maintenant, on a obligé les tribunaux administratifs de donner une décision en 10 mois, dans les zones tendues. Hein. À la campagne, ils n'ont pas besoin de se presser. Mais dans les zones tendues, ils sont obligés de nous donner une réponse en 10 mois. Donc finalement... On arrive à gérer, ça, c'est pas trop ça le souci. Le souci, c'est plutôt des refus de permis de la part des collectivités, des refus souvent dogmatiques dans les nouvelles municipalités, on évoquait tout à l'heure, qui en fait essaient de freiner considérablement les choses. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que nous autres promoteurs, pour certains, on se laisse pas faire, donc on monte au front, on va au tribunal administratif, on perd du temps, mais on gagne, on obtient nos permis ensuite. Ce qui prouve bien que ces refus étaient malvenus.
C'est en méconnaissance, selon vous ? Méconnaissance, peut-être, parfois ? Méconnaissance
certains sont faits volontairement, hein. D'autres pas, ok, ouais. Mais la plupart, c'est quand même des refus volontaires. Hein. Maintenant, on obtient gain de cause et deux
mais
ans.
Mais ça nécessite, voilà, ça nécessite une procédure.
Voilà.
Ce qui est ennuyeux, ce qui fait perdre du temps, ce qui fait baisser peut-être un peu du coup le stock.
Ah oui, personnellement, on ne le souhaite pas, on n'a pas envie de ça, on préférerait discuter, mais j'ai des adhérents qui me disent on discute avec les services de la ville, on fait comme ils veulent, on dépose le permis, et à la fin, on ne l'a quand même pas. Alors, vous savez, c'est ce genre de comportement, c'est sûr qu'on n'y comprend plus rien au bout d'un moment.
Oui, c'est un manque de lisibilité. Eh bien, écoutez, messieurs, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je suis navrée, je vais devoir couper court puisqu'on a déjà dépassé de 10 minutes notre émission. Mais c'est toujours des sujets passionnants. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir participé à ce plateau. On se retrouvera prochainement pour un nouvel hebdo des régions. Et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à retrouver, à télécharger ce podcast sur Radio Immo.
L'hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo, l'application mobile radio.imo et tous les agrégateurs de podcasts.